L'addiction, selon le Larousse, est un processus par lequel un comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. Il s'accompagne d'une impossibilité à contrôler ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Durant ces prochains mois, Radio Ondaine vous propose une série d'émissions autour des addictions, des dépendances, des comportements à risque, des réductions de ceux-ci. Et pour débuter cette série, c'est avec un de nos partenaires, le Centre Rimbaud, centre d'addictologie implanté dans la Loire, que nous allons aborder ce sujet. Christian Bourret est médecin au Centre Rimbaud de Saint-Étienne, de Roanne et de la communauté thérapeutique de Saint-Didier-sur-Rochefort. Il est aussi rédacteur à la revue Prescrire. Addiction, conduites addictives, docteur Bourret, d'ailleurs, est-ce qu'addiction est un terme que vous utilisez ?
Alors oui, aujourd'hui, avant on utilise d'ailleurs encore beaucoup le mot dépendance, mais du coup le terme à la mode, on va dire, c'est addiction et addict. Et l'addiction, on pourrait la définir comme la perte de la maîtrise de la consommation d'une substance, si on parle de substance, après on verra qu'il n'y a pas que ça. Du coup, cette perte, elle fait que du coup on a tendance à consommer et à y revenir et à revenir en recherchant l'effet initial qui malheureusement n'est pas toujours le même, hein, ça s'atténue, c'est ce qu'on appelle la tolérance au produit. Et puis il y a aussi la phase où après le shoot et le plaisir que ça a donné, c'est la descente un peu aux enfers avec des symptômes physiques et parfois psychiques pas bien marrants qui entraînent la recherche de nouveau du produit pour calmer ça du coup. Voilà. Là, on est vraiment dans l'addiction aux produits. On parle de produits, alors ça peut être des substances psychotropes, ça peut être des médicaments. Aujourd'hui, on en voit pas mal arriver ici. Mais sinon, classiquement, l'héroïne, la cocaïne, en tête. Et puis, il y a aussi des addictions aux jeux, des jeux d'argent, des addictions au sexe, entre autres.
Alors effectivement, comment vous, au quotidien, comment vous exercez sous ces formes d'addiction ? Est-ce que finalement une addiction au produit et une addiction sans produit, est-ce que on part de la même façon quand on a le patient en face de soi ?
Oui, d'entrée, parce que c'est vraiment comment dire ? Moi j'aime beaucoup ce soin-là, parce que c'est vraiment une rencontre. Une rencontre où tout le monde, on essaye d'être authentique. C'est une rencontre où on va faire en sorte de créer du lien, de créer de la confiance. Donc c'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup une écoute hypersensible. Hein. J'explique souvent ça comme ça, où on est vraiment présent, on essaye de capter un peu. Moi, ce que je trouve important, c'est le regard qu'on va porter sur ces personnes qui viennent s'asseoir là. À savoir que quand même, s'ils viennent ici en consultation, c'est qu'ils ne sont pas dans une phase agréable avec les consos. Hein. Sinon, ils ne viendraient pas voir le toubib. Donc, du coup, ils sont déjà très mal. Et du coup, c'est venir s'asseoir, se poser. Souvent, l'équipe ici a déjà un peu travaillé pour dire si, vas-y, tu vas pouvoir lui parler. Enfin, voilà, donc ça facilite un peu mon travail. Cette écoute-là, elle est fondamentale pour moi. Donc, le regard que je porte sur eux, c'est aussi leur signifier qu'ils sont dignes d'être aimés. Parce qu'on est dans quelque chose où les drogues sont en général pas venues par hasard. Hein. Alors, les médicaments, on verra tout à l'heure, c'est parfois un peu différent. Mais quand même, globalement, c'est des gens qui sont dans une grande souffrance existentielle. Hein, soit parce qu'il y a eu de l'abandon très jeune, soit parce qu'il y a eu des violences physiques, sexuelles. Il y a tout ça qui est derrière. Et souvent, le produit est là pour combler ce manque initial, la douleur initiale, pour l'apaiser. Hein, ça sert à ça, les drogues. Hein. Je crois qu'on l'expérimente tous d'une façon ou d'une autre, mais dans des proportions un peu différentes. Mais Donc, il y a vraiment ce temps. Ce temps très très important d'une grande écoute, d'une grande empathie, du coup. Donc, bienveillance, bien sûr, et puis surtout sans jugement. Sinon, c'est pas la peine. Hein.
Alors quand vous recevez un patient une personne qui fréquente ici ce centre Rimbaud, on imagine qu'on va identifier l'addiction. Alors on identifie peut-être le comportement et puis on peut avoir plusieurs addictions. De quoi vous disposez comme outil pour attaquer la séquence de soins ?
Alors, les outils, c'est les outils de réduction des risques de base, déjà le matériel qui est proposé ici. Pour ceux qui vont shooter ou sniffer, voilà. Donc on développe un peu ça, mais là je suis aidé par l'équipe, hein. Il y a du travail qui est fait à côté. Et puis moi, si effectivement c'est une addiction à l'héroïne, c'est leur suggérer qu'il y a des traitements médicamenteux qui peuvent leur permettre de poser un peu la recherche de cette héroïne. Et donc voilà, donc je les amène tout doucement à se décider de prendre un traitement, soit par méthadone, soit par buprénorphine, puisqu'on a le choix entre les deux. Et voilà, qui sont des traitements de substitution aux opioïdes. Pour la petite histoire, moi qui suis un vieux toubib, j'ai commencé donc en 83. 83, c'était surtout l'alcool hein, à l'hôpital. Et on parlait plus d'alcoolodépendance, mais on n'avait pas beaucoup d'éléments. Je reviendrai peut-être un peu sur l'historique, mais après, pour rester sur la méthadone est arrivée en 95 et la buprénorphine en 96. Ça a été vraiment spectaculaire, et alors là c'est pas que ici hein, mais sur un plan épidémiologique on a eu une chute drastique des overdoses par héroïne grâce à l'arrivée de ces traitements de substitution hein. Donc ça c'est fondamental hein. Alors on avait déjà eu avec la distribution possible de seringues en vente libre en 87. Ça c'était les années sida, ça a permis quand même de diminuer les contaminations sida. Après, il y a eu les hépatites hein, qui sont montées un peu en puissance, mais tout ce matériel sert à ça, à diminuer ces contaminations infectieuses. Et puis, les traitements de substitution servent justement à calmer, à apaiser un peu, à permettre de plus être en recherche d'un produit coûte que coûte et à faire n'importe quoi pour ça, et à être vraiment très très mal et en grande souffrance. Donc voilà, donc moi mon rôle c'est de les amener à prendre ce traitement. Donc quand ils sont ok, ben on y va tout doucement, on fait les trucs habituels, le contrôle urinaire pour être sûr que c'est pas du n'importe quoi, mais c'est toujours intéressant parce que du coup dans le contrôle, dans le petite bandelette urinaire, des fois il y a d'autres choses qui sortent, et donc c'est l'occasion d'en parler avec le gars qui en avait pas forcément parlé. Voilà, mais ça fait partie de la confiance, quoi.
Alors la prise en charge a changé, hein, on en discutait depuis on va dire le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, avec cette notion de sevrage qui a été laissée de côté pour plutôt un accompagnement pour la sécurisation, finalement la limitation des risques, et de cette limitation des risques à essayer d'atteindre l'arrêt total de ces prises de produits. Comment vous l'avez vécu, vous, en tant que médecin qui exerçait depuis de nombreuses années?
Ah oui, alors moi je trouve ça formidable, quoi, parce que du coup ça fait un paquet d'années, et commencer avec les sevrages à alcool à l'hôpital, qui étaient suivis à l'époque d'une cure, on appelait ça des cures de dégoût, hein, il faut voir la violence des mots, cure de dégoût, pourquoi? Parce qu'à l'époque, on donnait aux patients hospitalisés, après sa semaine de sevrage, son alcool préféré, et on associait ça avec un comprimé d'Espéral, qui est un médicament qui fait, on parle d'effet en tabu, c'est-à-dire que ça fait battre le cœur plus vite, ça donne ça vasodilate, c'est-à-dire qu'on a des rougeurs du visage, on n'est vraiment pas bien, on a mal au ventre, on a envie de vomir. Et en plus de ça, on associait ça en disant, plus vous êtes malade, plus ça veut dire que ça marche. Alors, on était dans une thérapie comportementale de sauvage, hein. Franchement, quand je repense à ça, heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps, mais je trouve ça dramatique. Bon, après, c'est vite tombé en désuétude, cette façon de travailler. Et puis, du coup, c'était plus un accompagnement, mais c'était un accompagnement, c'était du soutien, beaucoup d'écoute. Moi, je me souviens aussi de l'angoisse qui était pour tout le monde, ces contaminations du sida. Ça, c'était vraiment dramatique, et je crois qu'on doit vraiment les combats des associations, et notamment ACT UP en particulier, pour venir faire bouger les politiques qui étaient plutôt à la ramasse hein, derrière. Il fallait surtout pas. C'était le sida, ça touchait les toxicos et les homos, et donc du coup, voilà, quand ils se sont rendus compte que ça touchait tout le monde, ça a commencé un peu à changer. Donc bref, après, voilà, il y a eu un truc symbolique comme la possibilité de prescrire des seringues à insuline. Ça, déjà, c'était un sacré pas de fait, et ça a marché. Après, donc du coup, franchement, l'autre étape pour moi, c'est l'arrivée de la méthadone, de la buprénorphine. Là, c'est vraiment, on a tout d'un coup un outil supplémentaire pour accompagner. Là, j'avoue que ouais, ça a permis de créer, d'enrichir un peu le lien, et puis de voir des gens. Moi, j'ai vu des patients se resocialiser complètement avec l'arrivée de la méthadone, quoi. Hein, des gens qui étaient quasiment à la rue, qui se sont mis à venir régulièrement, avoir moins de problèmes infectieux, pas d'abcès parce qu'il n'y avait plus de shoot, et puis se remettre même à travailler. Enfin, c'est juste, voilà, ça c'est plutôt pas mal, quoi. Hein?
Alors sur votre pratique aujourd'hui, comment vous établissez un peu le suivi avec les personnes qui viennent vous voir ? Rappelons que le Centre Rimbaud est un lieu en dur à Saint-Étienne. On peut passer. Il y a également une entité qui est la communauté thérapeutique où là, on va plus vivre ensemble. Si l'on parle du Centre Rimbaud à Saint-Étienne, c'est une journée de consultation que vous avez par semaine. Voilà, ce suivi-là, avec ces patients, avec ces gens, je ne vais pas dire ces jeunes, parce que je pense qu'on est aussi dans tous les âges, comment il se passe aujourd'hui dans votre quotidien ?
Alors, déjà, c'est pas une journée, c'est seulement 5 heures. Alors, 5 heures hebdomadaires pour Saint-Étienne, pour Roanne, c'est vraiment très, très, très peu. C'est insuffisant. Bon, ça fait des années que je le dis. Ça bouge pas. Donc on fait avec. Donc du coup, forcément, mon temps est limité. Moi, je me refuse de faire du passage de patients. C'est pas la peine. Si je suis juste un distributeur de médicaments, ça a aucun intérêt à ce moment-là. Hein, d'accord. Donc voilà. Donc je prends mon temps avec chacun, comme j'ai toujours eu l'habitude de faire. Et voilà. Après les traitements de substitution, il y a une périodicité obligatoire. Hein, c'est ou 14 jours pour la méthadone au début, ou après c'est 28 jours. Donc il y a déjà ça qui rythme. Après, on voit parfois des patients beaucoup plus souvent parce qu'ils vont pas bien et qu'il faut les voir, les revoir, ou si voilà, suivant leur souffrance, qu'elle soit physique par des abcès ou psychique. Voilà. Parce que alors bon, je ne mets pas à la place du psychologue, hein, mais le travail ici, c'est aussi un travail sur le psychisme. Alors moi, ma façon d'être de toubib, de soignant, je disais tout à l'heure que j'espère une rencontre soignante, voilà, c'est une vraie rencontre. Donc il se passe des choses pour qu'ils arrivent, pour que les personnes qui s'assoient là en face de moi arrivent à se poser, à se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir parler d'eux-mêmes, de leur intime, quoi. Et de choses très très douloureuses, c'est pas facile. Hein. Il faut du temps, il faut une sacrée confiance pour que ça se passe. Donc là, il faut c'est de la longue durée quand même. Hein. C'est pas la première consultation générale qui vont me raconter tout ça. Donc voilà, on y va tout doucement. Après, une fois que c'est dit, si vraiment les traumatismes, voilà, ça résonne beaucoup, bien sûr que je les encourage à faire un travail sur eux, donc une psychothérapie. Bon, là, ça tombe bien à Rimbaud, on a des psychologues. Alors pareil, le temps est limité pour eux, mais bon, en tout cas, voilà, c'est l'étape suivante, quoi. Et moi, je continue. Alors, je continue, moi, s'il y a des traitements, on continue à se voir. Mais même s'il n'y a pas de traitement, hein, parce qu'il y a le lien est créé, donc voilà, c'est un accompagnement.
Sans, bien sûr, dresser de portrait type, mais vous l'avez dit, on a beaucoup de souffrances dans l'enfance, etc., qui vont amener à des comportements à risque et peut-être se libérer avec la prise de drogue. L'évolution, depuis que vous êtes sur le Centre Rimbaud, quand vous voyez ces patients-là, est-ce que il y a des périodes où il y en a plus ? Est-ce que c'est lié aussi à un peu de période détresse économique, etc. Est-ce que ça aussi, vous, dans votre pratique, il y a quand même ce côté d'ouverture sur la société en général ?
Oui, absolument. Je crois que là, il faut avoir la fibre sociale pour travailler dans un centre comme celui-ci. Ouais, non, c'est évident. On est en prise directe avec la précarité. Voilà, avec des gens qui sont... Alors non seulement il y a eu ce passé douloureux, et puis souvent, c'est aussi les conséquences, c'est aussi des personnes qui n'ont pas pu se construire, ou en tout cas qui sont un peu parfois morcelées, hein, et des fois avec des maladies psychiatriques du coup, et qui avancent comme elles peuvent. Je crois que ça, c'est vraiment évident. Et puis la situation, on voit bien la situation économique actuelle, c'est hyper compliqué pour plein de gens. Donc c'est vrai que c'est une vraie dimension ici. D'où aussi l'intérêt de ce centre où il y a une assistante sociale. Moi souvent je suis content de savoir que je vais pouvoir j'indique à l'assistante sociale et qu'on va pouvoir éventuellement se rencontrer. D'ailleurs on fait parfois des consultations à plusieurs exprès pour histoire de poser un peu les choses, et puis ça rassure beaucoup le patient. Je parlais du nombre d'heures ici insuffisantes. Voilà, justement, si on ouvrait davantage, si on pouvait consulter davantage, je pense que ici il y a un mi-temps qui serait rempli compte tenu des demandes qu'on a actuellement. Quoi. C'est alors la crise actuelle, ça range pas les choses. On voit arriver des gens vraiment très très fragilisés. Après, il y a une autre chose qui monte un peu en puissance ces derniers temps, enfin depuis quelques années, c'est les addictions aux médicaments. C'est-à-dire que des gens qui se font piéger, là on n'est pas forcément dans des souffrances dramatiques, mais des gens qui ont pris un médicament, un opiacé, ça peut être le tramadol par exemple. Tramadol aujourd'hui est pourvoyeur d'overdose quand même. Hein. Or c'est un opioïde, pour parler avec les mots plus récents, qui est utilisé beaucoup. Alors il soulage bien la douleur, sauf que ce produit, c'est un opioïde, mais il a aussi un effet sur la sérotonine et la noradrénaline, donc enfin un effet sur l'élan vital quelque part. Donc c'est vrai que si vous en prenez longtemps, quand vous l'arrêtez, il y a manque. Du coup, si on en reprend un, on se dit tiens, finalement, je suis mieux avec. Et c'est comme ça que, paf, on se fait piéger. Et on voit arriver des gens, effectivement, dépendants aujourd'hui du tramadol plus que de la codéine, et puis d'autres produits psychotropes comme la prégabaline. Voilà. Donc là, c'est un accompagnement encore difficile, hein, parce que les façons de faire, c'est la même chose, le soutien, les encouragements, et puis après, c'est diminuer les doses doucement, et pour certains, même passer pour le tramadol à un traitement de substitution aux opiacés, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'ils sont... Il faut voir le comportement aussi, hein, c'est pas tous, hein, je dis pas si on peut... S'il y a vraiment le désir, enfin comment dire, un accompagnement, on va pouvoir faire cette diminution de 10% tout doucement, mais parfois pour des gens qui sont déjà aussi un peu dans des conduites autres, ça va être un traitement de substitution aux opiacés, quoi.
Alors là, on parle beaucoup de produits. Si on décentre un petit peu et qu'on part de ce centre Rimbaud, les addictions, c'est aussi des addictions à l'alcool, où on fait de la publicité juste avec un petit mot en dessous en disant attention, hein, on peut être dépendant à l'alcool. Les jeux aussi, on fait beaucoup de pubs pour les jeux à gratter, les jeux d'argent, les jeux de paris en ligne. Et là, ça semble moins honteux. Que entre guillemets, moins honteux que la drogue. Le commentaire que vous avez par rapport à ça.
Ben bon, ça a toujours été. Et l'alcool, c'est vrai que voilà, comme c'est un phénomène social, quoi. Et en même temps, donc moi j'ai beaucoup parlé d'héroïne, de cocaïne, traitement de substitution à l'héroïne, mais la plupart ont aussi des problèmes d'alcool. Hein. C'est souvent tout mélangé. Et puis je vois des gens qui viennent juste aussi pour une dépendance à l'alcool. Et en général, des gens qui sont aussi physiquement très abîmés par l'alcool. Hein. Donc ouais, il y a vraiment un fossé entre ces images-là qu'on peut voir en pub. Après, les autres addictions, moi je suis moins impacté, du coup je les vois moins. Puis ouais, le peu de temps que j'ai, de toute façon, voilà, fait que...
Alors, sur le commentaire un peu extérieur qu'on peut avoir et la prise en charge finalement de personnes dépendantes et de cette question-là de dépendance, on sait que la consommation de la drogue a toujours existé, souvent plus facile à trouver, encore plus aujourd'hui avec des réseaux un peu mafieux derrière tout ça. Quel regard vous portez un peu sur cette société, sans rentrer dans la politique, mais ce regard un peu dedans, voilà, sur ces comportements à risque, cette disponibilité de drogue, etc.
Alors, oui, ça, on peut en discuter pendant des heures. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire ? Moi, je crois que, compte tenu de mon parcours, moi, avec l'addicto, on a quand même pas mal avancé, malgré les difficultés, malgré le fait que les politiques sont en général très frileux, on le voit pour le cannabis toujours, hein. On a du coup vachement avancé avec cette réduction des risques, et je trouve que ça c'est juste extraordinaire, quoi. Parce que, alors, on le doit aussi, il ne faut pas les oublier, aux associations. Il y a quand même, les associations font un boulot. C'est par exemple Techno Plus qui fait des petits dépliants pour chaque produit en disant attends, tu vas consommer, tu vas prendre tel produit. Si c'est la première fois, alors il faut que tu fasses attention à ça, 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 ça. Tu ne le fais pas tout seul, tu préviens ceux qui sont autour de toi. Voilà à quoi tu peux t'attendre, les effets positifs, mais voilà ce que tu risques aussi. Voilà, je trouve ça génial, quoi. Il y a un site aussi qui s'appelle Psychoactif, aussi il y a pas mal d'échanges, souvent les usagers m'en parlent, quoi. Moi j'y suis allé, notamment pour mes travaux pour prescrire, et c'est vraiment très très intéressant, hein. Donc voilà, donc ce travail-là, il est pour moi fondamental. Nous, on est là pour essayer d'accompagner au mieux, mais on apprend de ce qu'ils viennent nous dire. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je vois quelqu'un avec des abcès ou des édèmes, je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu prends comme aiguille? Enfin, etc. Donc c'est tout ce boulot-là, quoi. Et voilà, donc bon... Après, les drogues dans la société, ça c'est un vaste débat, mais elles ont toujours été là, hein, pour la recherche de plaisir. Je crois que l'être humain, il est programmé pour le plaisir quand même. Hein. Et puis après, pour ceux qui étaient dans un manque abyssal avec une grande souffrance, là c'est pour combler ce manque. C'est encore autre chose, là. Voilà, on voit la différence entre le côté plaisir, je fume un petit joint de temps en temps, ou je bois une bière de temps en temps, et c'est pas trop grave, hein. Et puis celui qui va être là pour combler, et puis du coup qui se fait complètement accrocher par le produit, quoi.
Avec vos patients, est-ce que il y a cette notion d'entourage? Alors on a bien compris hein, qu'il y a aussi cette précarité, peut-être de l'isolement, peut-être un passé qui est aussi compliqué, donc l'entourage n'est pas forcément présent, mais pour ceux qui ont encore un entourage autour d'eux, est-ce que là aussi il y a de la discussion avec la famille, etc. Pas directement, mais est-ce que vous pouvez aussi inciter? Et inversement, est-ce que des familles qui constatent des conduites addictives, quels conseils on pourrait leur donner? Est-ce qu'il faut accompagner aussi? Est-ce qu'il faut attendre que ce soit une personne dépendante qui fasse la démarche d'elle-même?
Oui, alors là, c'est deux choses. Effectivement, c'est vraiment très important que les familles puissent poser des questions, puissent venir, si elles sont très très en souci. Parce que des fois, ça permet effectivement d'y voir plus clair. Après, moi, pour les patients que je vois déjà, il m'est arrivé de voir les familles, mais à la demande du patient, et à ce moment-là, on se voit tous ensemble. Mais sinon, c'est bien aussi que les familles soient vues par un autre intervenant, comme ça, on ne mélange pas tout. Et c'est important par rapport à ce qui m'a été confié, justement, parler de choses très, très perso, très intimes. Des fois, il vaut mieux pas que les autres le sachent, quoi. Enfin, les autres de la famille. Donc ça, c'est un point, c'est vraiment important. Alors, on en a beaucoup de familles qui ont l'impression qu'aussi, parce qu'ils sont venus ici, parce que leur enfant est venu ici, ou leur frère, leur sœur, ça y est, c'est réglé. Et en fait, ils se rendent compte que, ça va prendre des années, et que l'accompagnement sera difficile, ça sera émaillé de rechutes, voilà. Donc ça, c'est important à expliquer aussi, hein. Que malheureusement, il ne suffit pas juste d'un passage pour que tout soit réglé. Je crois que en parler, c'est important. Je crois que, voilà. Après, ils peuvent en parler à leur enfant si vraiment ça dépend du lien qu'ils ont, hein, parce que souvent, il n'y a plus de lien. Il y a eu tellement de violence qu'en général, ils sont coupés de ça. Hein. Donc, ça n'arrive pas souvent, je dois dire ici. Mais globalement, en dehors des personnes qu'on voit ici, je pense que oui, si les parents ont du souci pour leur gamin, il vaut mieux essayer d'en parler. Et puis, ils peuvent venir, du coup, dans des centres comme ça, essayer de prendre un peu des ressources pour pouvoir en parler mieux, pour pas trop se planter. Et éventuellement, on peut recevoir tout le monde. Vous parlez de gens très isolés. Ça tilte très fort parce que on accompagne des jeunes souvent. Là, par contre, parce que tout à l'heure on disait que ça touche toutes les tranches d'âge, mais là c'est plus des jeunes qui sont complètement seuls. Les parents, soit ils sont morts, soit ils sont loin, soit il y a eu tellement de violence que les ponts sont coupés. Et quand même là c'est vraiment très très difficile, hein. il y a vraiment, on sent le manque affectif, nous on est là mais on n'est ni le papa ni la maman, c'est compliqué. En même temps, du coup, dans cette relation de soins, c'est aussi accepter d'être touché, donc c'est des histoires qui nous touchent, qui me touchent, et en même temps comment moi je garde ma distance de pro pour pas les adopter tous. après, du coup, ça tilte aussi sur la difficulté du soignant quand les patients ou le patient qu'on accompagne, on apprend qu'il est mort d'une overdose. Ça, c'est la grande difficulté, je trouve, ici, quoi. Parce que ça arrive encore bien trop souvent.
Pour les personnes qui nous écoutent, tester ses propres dépendances, alors je le dis comme ça, mais qu'est-ce que ce serait en fait pour... Est-ce qu'il faut y réfléchir en fait? À quel moment, de votre expérience, des rencontres, à quel moment il y a ce déclic qui se dit, tiens, ce truc-là, j'en ai besoin?
Alors, Bon, ouais, c'est effectivement, c'est un peu difficile. Moi, je dirais que si on se rend compte qu'on se met à consommer un produit, alors si c'est l'alcool, par exemple, mais vraiment tous les jours, de manière régulière, et que si on ne prend pas, on n'est pas bien, là, il y a un problème, quoi. Enfin, ça vaut la peine d'en parler. Hein. C'est peut-être pas très, très grave, mais quand même, ça commence à... Voilà, je dirais ça.
Le cheminement, pour en parler, le plus simple, c'est médecin traitant, c'est...
Oui, tout à fait, ouais, absolument. Ouais. Et puis, voilà, ça dépend du lien avec le médecin traitant, mais s'il est bon, bien sûr qu'il faut y aller, hein. Et voilà, je dirais, il n'y a pas de honte, ça fait partie de notre humanité, ça, c'est le piège de la dépendance. Voilà, et c'est toujours le signe de quelque chose, bah, d'une souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour que là, tout d'un coup, je sois obligé de prendre ce truc-là qui, moi, me fait du bien ?